C'est la partie 2 aujourd'hui de Prépare-toi à rencontrer ton roi à partir du psaume 2. Il y a deux parties et on va faire une révision de la semaine passée rapidement. J'avais dit que les élections dans beaucoup de pays sont dans les nouvelles. On en parle beaucoup. Et notamment au Canada, mais beaucoup aux États-Unis. Il y a eu des gros événements aux États-Unis au niveau de la course à l'élection. Et on voit que les problèmes de société sont grands, les populations souffrent, elles s'inquiètent, elles sont exigeantes envers ce que leurs futurs leaders, leurs futurs élus doivent faire pour eux. Et les moyens d'action n'augmentent pas, qui fait que C'est des demandes irréalistes très souvent pour les élus. Il faut qu'on prie pour eux. Et en même temps, comme j'ai dit la semaine passée, c'est encourageant pour nous de savoir que notre vrai leader, notre vrai roi éternel, est déjà en place et il le sera pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Amen. Et notre vraie nation, au fait, on a un pied dans notre nation terrestre, c'est le Canada, et on est au Québec, dans le Canada. L'autre pied, et c'est vraiment, ça nous aide à garder la bonne perspective, notre autre pied, il est dans notre nation céleste, le corps de Christ. C'est ce qu'on a commencé à développer en regardant le psaume 2, la semaine dernière, qui est un psaume prophétique, un psaume messianique. Et on avait dit, ce qu'on peut faire, c'est relire le psaume maintenant et regarder rapidement ce qu'on avait vu. Donc, le psaume 2, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens? Parmi les peuples, les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire contre son oint, contre son Messie, celui qui a reçu l'onction d'huile. Les peuples disent « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » En fait, déjà les peuples du temps des rois d'Israël disait cela concernant les rois d'Israël. Mais quand Jésus est venu, il y a eu des chefs qui se sont ligués et qui se sont dit, comment on va sortir cette explication-là? Donc, on a pied, hein, vous vous souvenez, dans le livre des Actes, il y a cette explication-là. Donc, on a vu qu'il y a plus qu'un accomplissement de la même prophétie. On continue la lecture. Dieu, celui qui siège dans les cieux, rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous tout en tremblant. Réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. De très grandes promesses ici, de très grandes prédictions. Et ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est qu'il faut lire les psaumes messianiques avec une perspective. Il y a deux façons de voir. Il faut prendre le texte tel qu'il est et il y a des prédictions, des grandes promesses Mais il y a une autre perspective à avoir, la perspective historique, la perspective dans le temps, où on se rend compte que certaines choses sont accomplies de manière imparfaite dans le temps des rois d'Israël, mais l'accomplissement total a lieu avec Jésus-Christ. Et en fait, Jésus vient deux fois. Il est venu quand il a habité sur la terre comme enfant et comme homme. Donc, son incarnation, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout ça, c'est arrivé. Il y a une deuxième venue qui n'est pas encore arrivée, où il y a certaines des prophéties de ce psaume qui vont être réalisées pleinement. Alors, voyez un peu que c'est des textes très profonds et il faut apprendre à bien les lire. Mais ce qu'on a vu, c'est que ce psaume nous dit, premièrement, qu'il y a un phénomène qui a toujours été comme ça dans le monde humain. Les peuples et leurs chefs sont en rébellion contre Dieu. Et on a parlé du problème du péché, la rébellion de l'humanité contre les hommes qui se manifestent aussi sur le plan politique. Deuxièmement, attention, Dieu est patient, mais il ne faut pas en abuser. Après la patience de Dieu, vient le jugement. Et c'est là que ton rôle en tant que témoin de Jésus prend toute sa perspective. C'est que oui, on reflète la douceur, la patience de Dieu, mais on est en train d'avertir les gens, n'abusez pas de la patience de Dieu. Il faut te soumettre au roi, à ton roi, et toi, les gens ne sont pas prêts, et il faut être patient, mais il y a un jugement qui vient, et le psaume en parle. J'aimerais maintenant continuer avec deux autres réalités et une troisième. Dieu, premièrement, c'est au milieu de ce psaume, Dieu révèle l'origine du Messie et lui donne un mandat spécial. Donc, dans ce psaume, au verset 7, Dieu appelle le roi son fils. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce monde-là ancien, ce n'était pas inconnu qu'un roi se voyait comme le fils de Dieu. Même les pharaons se voyaient comme les fils des dieux. En Israël aussi, on voit que les rois, lorsqu'ils sont couronnés, ils sont proclamés fils de Dieu. En Israël, c'était une adoption par Dieu, parce que les humains, ce n'est pas des dieux, et Dieu, c'est Dieu. Mais Dieu, quand il nomme un roi et lui donne l'onction d'huile, il adopte le roi comme son fils. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui connaissent le livre de 2 Samuel, que Salomon, Dieu dit, mais à David, ton fils va devenir roi, et c'est lui qui va me bâtir mon temple, et moi, je vais l'adopter comme mon fils, et je vais l'instruire, je vais le guider, je vais le corriger quand il va aller dans une mauvaise direction. C'est dans ce sens-là que les rois d'Israël de cette époque-là devenaient des fils de Dieu. Mais le psaume 2 dit quelque chose qui dépasse cela. Et c'est comme une préfiguration de quand Jésus va venir. Le verset 7 dit, « Tu es mon fils, et pas je vais t'adopter aujourd'hui. » Mais je t'ai engendré. Le verbe signifie tu vas naître de moi. Et donc, on comprend aujourd'hui que ça ne s'applique pas au roi d'Israël qui était simplement humain, mais ça s'applique à Jésus. Quand il est venu, il a été intronisé d'une manière différente, mais Jésus a expliqué à ses disciples quand il était sur la terre. « Moi, je sors de Dieu. Je suis éternellement engendré du Père. » Alors ça, c'est le mystère de la Trinité. Et évidemment, les disciples n'ont pas tout compris d'un coup. En fait, ça a pris plusieurs centaines d'années pour que les chrétiens puissent trouver une manière de formuler la doctrine de la Trinité qui soit vraiment juste et biblique. Mais Jésus a révélé ce mystère. Moi, j'ai toujours existé. Je suis Dieu le Fils. Et je suis venu, le Père m'a envoyé pour que je devienne homme. Je suis né dans la lignée de David pour devenir un des rois de David, mais le dernier, celui qui va être éternel, celui qui est le Messie dans lequel vont être accomplies toutes les promesses du psaume 2 et de toute la Bible, en fait. Donc, notre Dieu, et c'est déjà annoncé dans le verset 7 ici, notre Messie est pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose quand vous lisez dans votre Bible, l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment le fun parce que ça dit, c'est tellement merveilleux d'avoir un Dieu, pensez-y une minute, c'est un peu choquant, un Dieu qui est complètement Dieu, puis c'est un homme aussi. C'est quand même, il y a des gens qui disent, mais vous êtes fou, comment est-ce que Dieu peut être homme? Mais notre Dieu a été capable de le faire. Et notre Messie, notre roi, celui à qui on prie, celui qui prie pour nous, celui qui est assis comme Dieu, est pleinement Dieu, pleinement homme. Wow! Alors, un autre aspect maintenant du mandat du Messie, il est appelé à briser les nations avec un sceptre de fer. Ça, c'est une image violente. Et l'image, c'est de briser même un vase avec un bâton en fer. En fait, j'avais expliqué plus tôt cet été qu'il y a 4 jugements de Dieu. Nous, on vit dans la période où le jugement auquel on peut se soumettre, c'est un jugement de salut. Un jugement qui ne nous détruit pas, mais qui vient, on va dire, briser le péché qui est en nous pour nous transformer en quelqu'un de meilleur. Jésus, on l'appelle le bon berger. Et en fait, nous vivons dans la période avant le grand jugement final. Nous vivons dans la période où Jésus brise, en fait, l'orgueil des humains et qui viennent à lui un par un à la croix. Ce qu'il brise, c'est vraiment pour leur bien. Donc, moi, j'ai été brisé par Christ. Toi aussi, si tu as reçu Christ, c'est qu'à quelque part, il a brisé ton orgueil, il a brisé ton péché et il t'a rendu docile comme un agneau pour être enseigné par lui. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse dit que Jésus et ses disciples utilisent ce sceptre de fer qui est l'autorité de Dieu, non pas pour détruire les individus, non pas pour détruire les nations, mais pour les transformer, pour les paître. Voilà la façon que le livre d'Apocalypse le dit, pour les nourrir. Donc, tu peux te poser la question ce matin, est-ce que je suis venu à la croix de Jésus pour que ma résistance à Dieu soit brisée et que je puisse devenir sa brebis? Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est important. C'est vraiment ça qui est l'avertissement du psaume. Et c'est ça que Jésus est en train de faire aujourd'hui dans le monde entier. Briser des âmes rebelles. Et justement, un autre aspect du mandat que Dieu donne à Christ, c'est comme une promesse de cadeau. Je ne sais pas si les parents ici, des fois vous dites à vos enfants, est-ce que tu aimerais que je te donne telle chose pour Noël? Alors, l'enfant, si c'est vraiment quelque chose qu'il veut, il va être vraiment content. Il va savoir à l'avance, « Oh, mon papa, il veut me donner un cadeau. J'ai vraiment hâte. Et ici, il y a quelque chose de semblable qui se passe, c'est que Dieu, le Père, dit à Dieu le Fils, « Demande-moi et je vais te donner les nations en héritage, les extrémités de la terre comme cadeau. » Alors, ça, c'est une référence à la mission. Demande-moi les nations de la terre et je vais te les donner. En fait, Dieu a dit cela à Jésus et Jésus a dit, oui, je les veux les nations, je les veux toutes. Et il est venu, il est mort et ressuscité, il a été fait roi et il réclame les nations. Donc, frères et sœurs, lorsque nous prions pour les missionnaires, comme par exemple, Sharon et Gary Howell, qui travaillent parmi un peuple non atteint par l'Évangile en Afrique. On est en train de participer à ce cadeau que le Père a fait à Jésus, son Fils, et que le Fils a dit, « Oui, oui, papa, ton cadeau, je le veux, puis je voudrais des disciples de toutes les nations. » Puis, n'oubliez pas que ça nous implique, nous aussi, quand on prie pour les missionnaires, mais quand on témoigne aussi, quand on est impliqué comme des missionnaires là dans notre milieu. Voyez-vous le lien entre le psaume et puis quand Jésus a donné l'ordre à ses disciples, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous faisons partie du cadeau que le Père a fait au Fils. Donc, la réalisation de ce verset-là est en train de se faire à travers nous. Un autre aspect du psaume, Dieu donne des conseils aux nations à la fin du psaume, hein? Les versets 10, 11 et 12, des conseils de sagesse, des conseils de bon sens. Et Dieu dit aux hommes, ne niaisez plus là, arrêtez d'être insensés, arrêtez votre rébellion, soyez sages et mettez-vous dans la crainte de Dieu. Prenez au sérieux son autorité et sa volonté. C'est un thème très important de la Bible, la crainte de Dieu. Et nous aussi, les chrétiens, on doit vivre et donner l'exemple aux gens autour de nous. À quoi ça ressemble, la crainte de Dieu? Pas la peur qui fait qu'on fuit Dieu, mais cette crainte qui nous amène dans ses volontés. Obéir à sa parole. Et il y a un lien entre la crainte et la joie. Et ça, c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le psaume dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. C'est quand même assez bizarre comme combinaison. Il y a quelques semaines, vous avez vu dans le psaume 100, avec le pasteur Michel, servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est dans le psaume 100, un psaume d'adoration. Tous les peuples sont invités à adorer, tous les peuples sont invités à se réjouir et à servir. Et ici, c'est un peu différent. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous en tremblant. Alors, la crainte et la joie vont ensemble. Et le chemin vers la vraie joie passe par la crainte. De la même manière qu'on a dit au début de l'été que dans les psaumes, ça finit dans l'adoration, mais ça commence dans l'instruction vers la sagesse. Il faut accepter d'être instruit par Dieu pour en arriver à une adoration qui est correcte et qui lui plaît. Et de la même manière, Il faut apprendre à craindre Dieu de la bonne manière pour pouvoir en arriver à sa joie. Alors, désolé, il y a un problème en arrière, mais nous, on va continuer. J'aimerais vous parler d'un sujet délicat maintenant, qui est important, qui touche à l'actualité. Et c'est par rapport à un mot, un petit mot dans le verset 6. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est le mot Sion et j'aimerais parler de la question du sionisme qui est beaucoup dans les nouvelles aujourd'hui à cause de ce qui se passe dans la vie d'Israël. Le mot Sion a donné naissance au mot sionisme. Mais qu'est-ce que c'est le mot Sion? L'origine du mot Sion, c'est à l'origine l'ancienne partie de Jérusalem. Et c'est devenu un mot pour appeler poétiquement la ville de Jérusalem. Donc, quand on dit le temps où Dieu a choisi d'installer son temple. Aujourd'hui, le sionisme, c'est cette croyance que la terre d'Israël, la terre de Palestine, appartient toujours au peuple juif et que les juifs sont appelés à partir de là où ils habitent dans d'autres pays pour aller vivre dans ce territoire-là, dans le territoire d'Israël. Et il y a beaucoup de chrétiens qui partagent cette croyance sioniste, on va dire, à cause des nombreuses prophéties qu'ils lisent dans la Bible. Donc, le sionisme, donc de croire que, pour un chrétien, que Dieu veut que les Juifs déménagent en Israël et prennent possession de ces pays, il y a beaucoup de chrétiens qui croient cela, c'est quand même une doctrine secondaire, c'est pas essentiel au salut. Tu n'as pas besoin de croire ça pour être sauvé. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui y croient, et il y a aussi, évidemment, beaucoup de Juifs qui sont sionistes. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, oui, les Juifs croient au sionisme à cause de leur lecture de la Bible, mais le plus souvent, c'est une croyance plutôt politique du côté des Juifs. Il y a souvent des Juifs qui peuvent être athées ou agnostiques, mais qui croient vraiment que la solution pour le peuple juif dans le monde d'aujourd'hui, c'est de déménager en Israël et d'avoir un pays bien protégé. Mais c'est plus une vision nationaliste et culturelle que religieuse. Pas toujours, mais souvent. Alors, j'en parle parce que depuis 100 ans environ, notre génération a été témoin d'un phénomène remarquable, c'est le succès de ce projet sioniste et la création de l'État d'Israël en 1948, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et cet État n'a pas arrêté de grandir et de s'épanouir. Cependant, aussi, depuis presque 100 ans, nous sommes témoins des guerres, on va dire, incessantes entre Israël et les Palestiniens et aussi parfois avec les pays arabes voisins. Donc, beaucoup de souffrances, beaucoup de sang qui coule et qui coule encore. Et c'est ça dans les nouvelles à chaque jour avec cette nouvelle guerre depuis le 7 octobre. Alors, j'en parle en posant la question, en tant que chrétien, comment nous positionner face à cela? Qu'est-ce que Jésus nous demande? Et donc, j'aimerais vous proposer quelque chose. C'est ma compréhension à partir de, oui, du psaume 2, mais à la lumière de l'enseignement du Nouveau Testament. J'ai résumé ça dans cette phrase ici que je vais vous lire. La priorité que notre roi Jésus nous donne pour le servir auprès du peuple juif, c'est tout simplement de leur faire connaître leur roi Jésus, son salut et son enseignement, tout comme lui l'avait fait quand il vivait parmi eux. Notre priorité n'est pas de les aider à conquérir ou à défendre un pays sur cette terre. Donc, je ne dis pas qu'il faut être contre l'existence d'Israël, non. C'est plutôt quel est notre bon focus, quelle est notre priorité. Donc, je vais relire. La priorité que Jésus nous donne, c'est de faire connaître Jésus à nos amis et au peuple juif, son salut et aussi son enseignement. Tout comme lui l'a fait parmi eux, notre priorité n'est pas de les aider à conquérir ou à défendre un pays sur cette terre. Alors, laissez-moi donner juste quelques appuis à cela rapidement. Premièrement, n'oublions pas le livre de l'Apocalypse qui nous dit qu'il va y avoir une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Et c'est cette nouvelle Jérusalem pour laquelle nous nous préparons en priorité et que nous préparons le monde en expliquant aux gens comment ils peuvent en faire partie. Amen? Oui, c'est au même moment que cette, nous dit Apocalypse 21, c'est au même moment que cette nouvelle Jérusalem descend, que aussi Jésus va revenir. Et ce double changement, bon, il y a des détails que je saute ici, mais le double changement, c'est ça qui va être définitif. Jésus roi pour l'éternité, nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Ça va être extraordinaire. Donc, pourquoi c'est important de se souvenir de la Nouvelle Jérusalem? Ça veut dire que tous les projets humains sionistes, il faut les voir comme temporaires. Même celui d'aujourd'hui, qui est quand même assez éblouissant, et on sait que Dieu s'en sert pour ses desseins à lui, mais même celui-là, il est temporaire. C'est seulement la Nouvelle Jérusalem qui va être permanente. Et c'est la Bible qui nous le dit. Deuxièmement, il faut savoir que c'est dans la Nouvelle Jérusalem que vraiment, on peut dire, les Juifs qui ont reçu Christ vont vraiment avoir... la Bible indique que les Juifs qui ont reçu Christ, vont avoir une place spéciale dans ce nouveau royaume éternel. Un honneur spécial parmi nous, parce qu'ils sont comme doublement élus par Dieu. Ils ont, d'un côté, ce sont des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des enfants naturels, et en plus, ils sont élus en Christ. C'est une exigence nécessaire pour entrer dans cette nouvelle Jérusalem, mais ils vont avoir un honneur spécial parce qu'ils sont comme doublement frères et sœurs de Jésus lui-même. Hein? Paul a parlé de l'olivier, que nous, qui ne sommes pas juifs, nous sommes des branches greffées, nous sommes des branches ajoutées d'une manière artificielle par Dieu. Mais il y a des branches qui sont déjà naturelles et que Dieu rattache à cet olivier. Et donc, les Juifs, c'est eux qui vont bénéficier de cela. Et donc, ils ont une place spéciale, mais encore une fois, il faut qu'ils rentrent d'abord dans cette nouvelle Jérusalem. Donc, la question vraiment importante pour nous, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour qu'un juif ou une personne juive puisse entrer dans ce royaume? Qu'est-ce que ça va prendre pour que mon voisin juif, je dis mon voisin juif, en fait, on vit dans une ville ici à Montréal où il y a une très grande population juive. Peut-être que vous connaissez des juifs et vous ne le savez même pas. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour que ce juif entre dans le royaume éternel, la Jérusalem éternelle, qu'est-ce que ça nécessite? Je ne sais pas si quelqu'un peut essayer de répondre. Amen. Oui. Donc, c'est la même chose pour eux comme pour nous. Alors, donc, les honneurs spéciaux pour ces personnes doublement élues, c'est dans la Nouvelle Jérusalem qu'ils vont les vivre. Et je dirais, si ça te dérange, mais pourquoi eux, ils auraient des places spéciales? Pourquoi est-ce que Jérusalem va être la capitale du monde dans ce nouveau royaume? Vous savez, quand on va être là, ça ne va plus nous déranger tout ça. Il n'y aura aucune jalousie entre nous. Hein? Et des places spéciales, des couronnes spéciales. Et Jésus a dit aussi, beaucoup des derniers seront les premiers. Beaucoup des premiers seront les premiers. On va tous être tellement contents d'être là que ça n'a pas d'importance si toi, tu vas avoir un honneur spécial. Puis moi non. Je vais juste être content d'être là. Des fois, je dis au monde, Jésus, je suis tellement content d'aller à ton banquet. Tu peux me mettre à la vaisselle, ça ne me dérange pas. Tu peux me mettre au service, aux tables, ça ne me dérange pas. Je suis juste content d'être dans le party. Et je crois qu'on peut accepter le fait que la terre d'Israël, qui va être renouvelée, les Juifs qui ont été sauvés auront un honneur spécial. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Juste un autre point que j'aimerais dire. Il y a un verset qui est parfois mal interprété par les chrétiens. Dieu a dit à Abraham, quand tout ça a commencé, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et ça fait peur aux gens, ça. Et il y a des chrétiens qui vont dire, si on n'aide pas Israël politique avec tout ce qu'il nous demande, et si on ose les critiquer lorsqu'ils font des excès de violence, ben non, on risque que Dieu va nous maudire. Donc, il faut juste les soutenir sans réserve. Pas les maudire. Dieu veut que nous aimions les Juifs et c'est comme ça que nous allons les bénir. Et Dieu, il veut même qu'on les aime d'une manière spéciale parce que lui les aime d'une manière spéciale. Mais comment les aimer, encore une fois? Je vous pose une autre question. C'est quoi la meilleure manière d'aimer mon prochain Juif? Amen! Oui! Alors, comme tout le monde, il ne faut pas le frapper sur la tête avec une Bible, mais si je l'aime, je vais lui parler de Jésus. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, souvent, avec nos amis juifs, mais c'est la manière de les aimer, de les bénir. Regardons aux prophètes, regardons aux apôtres, regardons à Jésus. Comment les ont-ils bénis? En leur enseignant la justice et la vérité, comme aux autres hommes. Pardon? Ah, OK. Oui. Et quand on regarde à Jésus, remarquez bien, Jésus ne priorisait pas dans ce qu'il disait à ses co-religionnaires juifs. Il était juif lui-même. Il ne priorisait pas dans ce qu'il leur disait de les sécuriser par rapport au territoire d'Israël. Non, même, il leur disait, attention, il y a des mauvais temps qui s'en viennent. Le temple va être détruit. Il ne leur cachait pas. Et il leur parlait, repentez-vous. Préparez-vous pour le royaume de Dieu. Reconnaissez que je suis celui que Dieu a envoyé. Et il les offusquait. Tout cela les confrontait. Mais Jésus n'était pas en train de les maudire. Il les invitait à la vérité et c'était un acte d'amour et de bénédiction. Il nous appelle à faire pareil. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une personne juive dans ton entourage? Est-ce que tu peux prier pour elle? Est-ce que tu pries pour le peuple juif? As-tu déjà considéré peut-être de soutenir une mission dont c'est ça la priorité de témoigner auprès du peuple juif? Il en existe plusieurs. Donc, la priorité que Jésus nous donne, c'est de leur faire connaître leur roi. Donc, je vais conclure maintenant. On a fini avec le psaume 2, bien qu'on pourrait en parler encore plus longtemps, mais on voit que ce psaume nous rappelle qu'il y a une résistance au roi que Dieu nous donne. Et Dieu appelle les peuples à se repentir. Nous sommes appelés à être ses témoins. Dieu donne des conseils aux nations et il nous donne aussi le conseil de témoigner. Et j'ajoute juste un petit point. N'oublions pas les Juifs. N'oublions pas que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif, premièrement, et ensuite le non-juif. C'est quand même important. Pendant qu'il est encore temps, continuons de prier, d'aimer, de parler. Pour terminer, je vous donne un petit exercice. Et vous pouvez peut-être l'intégrer dans l'exercice que Mélodie, elle vous a donné il y a 2 semaines de faire un temps spécial de jeûne et de prière. C'est un exercice de prière pour des gens que Dieu va vous montrer dans votre esprit. Pensez premièrement à 2 personnes qui ne sont pas encore chrétiennes dans ton entourage. Pense à 2 personnes pas encore chrétiennes et auprès de qui il est possible pour toi de parler du Seigneur, que la porte est ouverte. Donc, l'exercice, c'est de prier régulièrement que Dieu te prépare pour lui partager à propos de Jésus et de l'Évangile. Donc, 2 personnes avec qui tu vois que la porte est ouverte. Puis l'autre partie, pense à 2 personnes dans ton entourage qui ne sont pas encore chrétiennes et envers qui ce n'est pas encore possible de parler du Seigneur, que la porte n'est pas ouverte pour une raison ou une autre. Prie pour ces 2 personnes et prie que Dieu œuvre pour que la porte s'ouvre. Donc, ça fait 4 personnes. Mais si vous êtes ambitieux, vous pouvez augmenter le chiffre. Ça peut être 3 et 3. Mais je crois que c'est important que nous soyons dans la prière pour les individus autour de nous, à la lumière de ce que ce psaume nous dit et nous avertit. Alors, terminons dans un mot de prière, après quoi j'invite l'équipe de louange. Jésus, tu as envoyé ton esprit dans tout le bâtiment ici. Aujourd'hui, avec les classes en bas, tu étais là, présent, pour toucher des cœurs. Là où il y avait une sœur en difficulté de santé, tu étais là. Et ici, parmi nous, où on a parlé du plan éternel, messianique, qui vient de toi. Père, nous voulons entrer dans ce plan et nous voulons continuer à œuvrer. Mais ma prière maintenant, c'est pour notre vie de prière. Que chaque personne qui est ici aujourd'hui ait une idée de comment se mettre à prier. Et peut-être que quelqu'un pense à une personne juive sur son chemin. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais j'ai jamais vu comment cette relation que j'ai est précieuse aux yeux de Christ. Parce que les Juifs sont précieux aux yeux de Christ. Et Jésus, donc, montre-moi comment prier pour cette personne-là. Et peut-être une autre personne qui n'est pas juive, mais que tu as mis spécialement sur mon chemin pour qu'elle puisse mieux te connaître, Jésus. Alors, Père, nous te remettons sous tout cela. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous prions. Amen.